Radio Orient présente Pluriel. Pluriel, animé par Loïc Barrière.
L'invité de Pluriel est Alexandre Cheune, animateur du groupe thématique numérique au sein de la France Insoumise. Bonsoir.
Bonsoir, Loïc Barrière.
Alors, Alexandre Cheune, nous allons parler dans quelques instants des propositions de Jean-Luc Mélenchon sur la question du numérique. Mais d'abord, quelques questions sur la campagne électorale. Éric Zemmour veut construire un mur aux frontières de l'Europe. Il affirme aussi que les logements sociaux sont, je cite, une terre d'islamisation. Il veut expulser par ailleurs non seulement les délinquants étrangers, mais aussi les chômeurs. Il y a peu de réactions à ces propos qu'on n'avait jamais entendues avant dans une campagne électorale. Que vous inspire ce discours d'un candidat qui veut être président de la République ?
C'est méconnaître très clairement les réalités migratoires de ce que subit actuellement le monde et la construction communautaire. C'est d'avoir des solutions de facilité comme celle de Trump, alors qu'en réalité, ces solutions n'empêcheront jamais les flux migratoires de continuer. Quand vous avez des dizaines de milliers de personnes, quand vous voyez les témoignages de SOS Méditerranée, de ces centaines d'âmes qui sont en train de disparaître dans le fond de cette immensité bleue qui est la mer Méditerranée, eh bien en fait vous voyez que les gens aujourd'hui, poussés par la misère, poussés par les guerres, sont prêts à tout pour essayer d'avoir accès simplement à la dignité de vivre. Et ce n'est pas des murs ou des barbelés, comme veut le dresser la Hongrie, la Pologne ou maintenant M. Zemmour, qui vont empêcher quoi que ce soit. Il faut avoir une solution pragmatique, il faut avoir une approche concertée avec l'ensemble des États au niveau de l'ONU et au niveau aussi des régions concernées, des ressources sur lesquelles on peut s'appuyer pour essayer à la fois de parvenir à des situations de stabilité, de respect bien sûr des droits de l'être humain les plus fondamentaux et permettre enfin à ces personnes de pouvoir rester dignement dans leur pays, parce que partir est une violence, intime, est une violence dans leur vie, et qu'il faut aujourd'hui avoir une approche onusienne et une approche concertée, multilatérale, en contact avec les régions locales pour justement favoriser ça. Et puis bien sûr, avoir la dignité d'accueillir les personnes qui sont dans le besoin, parce que ces personnes-là ne viennent pas, je vous l'ai dit, par gaieté de cœur, et qu'il faut au contraire favoriser les conditions d'accueil. C'est ce que moi je fais par exemple au niveau associatif au quotidien, avec l'ensemble des acteurs associatifs, on est tous présents sur le terrain pour accueillir, et il faut qu'on se dirige vers ça. La France aujourd'hui a besoin de dignité, la dignité de ses valeurs, et non pas l'indignité d'un mur dressé, comme on peut le faire aussi dans nos têtes.
Alexandre Cheune, la Fondation Abbé Pierre a alerté sur le mal logement. Les associations rappellent aussi qu'il y a 10 millions de pauvres en France. Ces sujets sont urgents. Jean-Luc Mélenchon, s'il est élu, mènera une politique volontariste pour lutter à la fois contre le mal logement et la pauvreté.
Tout à fait. Le constat que vous faites est tout à fait vrai et accablant. Vous avez 9,3 millions de Français qui vivent aujourd'hui sous le seuil de pauvreté. Sur la situation du mal logement, vous l'avez dit, le rapport Abbé Pierre met en avant plus de 4 millions de personnes qui sont mal logées en France, de par des facteurs très divers, que ce soit la pauvreté, la rupture familiale, la maladie. Vous avez un tiers des foyers aujourd'hui qui sont éligibles au RSA qui ne le demandent pas. Ça, je le vois tous les soirs dans mon association, où en fait on essaye de se battre face aux précarités numériques, face aux facteurs d'isolement, pour essayer de rompre cet isolement et de faire en sorte que ces 750 millions d'euros de prestations qui ne sont pas versées puissent l'être. Et on attend toujours, nous, en tant qu'acteurs associatifs, des mesures fortes qui avaient été promises au début du quinquennat Macron, mais qui finalement n'ont jamais été mises en place, comme par exemple le versement automatique des prestations. C'est 330 euros par mois et par unité de consommation, ce qui représente un énorme manque pour ces familles les plus précaires, et aussi d'avoir une approche aussi qui est géographique. Vous savez que je suis géographe, Loïc Barrière, et c'est une approche qui pour moi est extrêmement importante. Le non-recours le plus fort aux prestations sociales se fait d'abord dans les bourgs et les villages de moins de 5 000 habitants, et également à Paris, à plus de 45%. et les villes moyennes sont autour d'une vingtaine de pourcents, entre 20 000 et 100 000 habitants en termes de villes. Donc il y a une réelle approche à avoir sur ça au niveau de cette élection présidentielle et sur la question bien sûr du logement en tant que tel. Il y a vraiment la mise en place d'un plan zéro sans-abri. Je ne sais pas si vous l'avez lu, j'encourage les gens à se rendre sur internet, sur le site de lafranceinsoumise.fr et aussi de l'Union Populaire pour mettre en avant nos mesures comme la construction de 200 000 logements par an, la mise en place d'une garantie universelle des loyers qui est une sorte de sécurité sociale du logement et un certain nombre de mesures fortes aussi sur le pouvoir d'achat, puisque le pouvoir d'achat aujourd'hui est en train de stagner, est en train de se fragiliser grandement, et nous avons des mesures fortes sur cette question-là, comme par exemple le blocage des prix des produits de première nécessité, et aussi de remettre en question la question des marges totalement mirobolantes que se font aujourd'hui la grande distribution, et qui sont une forme de taxation sur les personnes les plus précaires, les plus fragiles, et il faut mettre un terme à ça très rapidement. Le pouvoir d'achat aujourd'hui, il y a des constats, vous savez qu'il y a une grande manifestation qui est prévue pour le 17 mars à venir. Enfin, il y a de grands appels sur ces questions-là. Donc, il faut être conscient d'un certain nombre de constats. C'est qu'aujourd'hui, face à l'augmentation du coût de la vie, il faut augmenter les salaires, il faut augmenter les pensions, il faut augmenter les allocations et les bourses étudiantes, parce que depuis décembre 2021, l'inflation en France, c'est 2,8% sur un an. Et donc, c'est un enjeu majeur de combattre cette stagnation des salaires, plus que agir de façon sporadique sur l'évolution des prix, comme essaye de le faire le gouvernement, sans grande réelle mesure pour tout ça. Nous, on a une mesure qu'on porte depuis 2017, c'est de mettre à une échelle de 1 à 20 sur notamment la question de l'imposition, mais surtout aussi la question des tranches d'impôts, mais aussi de mettre une échelle de 1 à 20 sur les salaires. Car vous ne pouvez pas augmenter davantage les plus grands salaires si vous n'augmentez pas les salaires les plus petits. Et ça, c'est des mesures concrètes sur la question de la précarité face au logement, sur la question de la précarité face aussi aux salaires, etc. Le SMIC à 1400 euros net par mois, c'est nous qui le proposons. C'est pas Éric Zemmour qui est contre l'augmentation du SMIC, qui est pour augmenter le départ de l'âge à la retraite et qui, du coup, vole du temps aux gens. Cet homme est un voleur de temps. Cet homme est un imposteur au même titre que ce qu'est la droite et de ce qu'est l'extrême droite qui a toujours été au service d'une seule et même personne, le grand patronat français. Ils ne sont pas les amis des personnes pauvres. Ce sont leurs ennemis qui aiment les dîners mondains, qui aiment être près de Bolloré et qui laissent les Français dans la misère. Il faut vraiment reprendre en main ces éléments-là, ne pas être aveugle des faux chiffres qu'avance la droite ou l'extrême droite parce que c'est aussi un combat de chiffres et les alliés, ce sont les gens qui se battent pour les valeurs fondamentales de la gauche, c'est Jean-Luc Mélenchon, c'est plein d'acteurs que nous avons et que nous réunissons autour de l'Union Populaire avec plus de 100 personnes de la société civile dans ce Parlement où on auditionne des gens très divers, où nous avons des acteurs, des gens de la culture, des travailleurs syndicalistes, des ouvriers, des philosophes, des scientifiques, nous avons de tout dans ce Parlement dont j'ai l'honneur justement d'être membre en tant que chercheur spécialisé sur les questions numériques. Il faut vraiment qu'on avance sur toutes ces questions-là.
Alexandre Schoen, nous allons évoquer à présent un sujet sur lequel vous travaillez depuis plusieurs années pour la France Insoumise et qui va alimenter le projet de Jean-Luc Mélenchon, le numérique. C'est un sujet dont presque personne ne parle, le fait que pour avoir accès aux services numériques, il faut payer via un abonnement Internet ou la 4G. Or, l'État maintenant choisit de plus en plus de transformer les services publics en plateformes numériques. Je pense par exemple à la carte de séjour. Il devient difficile d'avoir un contact humain pour faire valoir ses droits en préfecture. Est-ce que Jean-Luc Mélenchon est préoccupé par ce bouleversement dans l'accès aux services publics ?
Tout à fait. En fait, si vous voulez, voilà, là j'ai cet avantage-là, moi, en tant qu'animateur du livret numérique, de pas simplement être militant politique, ce qui est déjà pas une masse à faire déjà pour l'ensemble des gens qui sont militant politique à plein temps, mais je suis militant en plus associatif depuis plus de 15 ans sur ces questions-là. Sur Paris, on fait des permanences parfois à 23h jusqu'à 2h du matin pour pouvoir accueillir les personnes exilées pour faire leur demande de visa notamment sur le site de la préfecture, les demandes de titres de séjour, etc. Et pourquoi on le fait à ces heures-là? Parce que le site internet de la préfecture est littéralement pourri et que il est codé de manière justement à essayer de décourager d'une certaine manière les gens de se connecter. Il y en a qui ont cette expérience-là, notamment sur la signature de la pétition, vous savez, pour ADP, Aéroport de Paris. Un site qui était extrêmement mal codé et que c'était une insulte littéralement aux habitants, aux citoyens, aux citoyennes. Et donc sur ces questions-là, et c'est pas moi qui le dis, c'est un rapport du Défenseur des droits de 2019 qui met en avant qu'aujourd'hui, le numérique est un instrument servile au service d'un capitalisme et d'un libéralisme extrêmement agressif et qui a un objectif, c'est d'éloigner, en tout cas dans la façon dont il est codé aujourd'hui et dont il est conçu par les services publics malheureusement, c'est un instrument qui sert à éloigner les gens de leurs droits. Quand vous avez plus de 50% des Français, et notamment des personnes qui sont les plus en nécessité, les plus précaires, qui ignorent leurs droits et qui sont éloignés de leurs droits, notamment de par l'isolement, parce que c'est les publics les plus précaires, les plus isolés, je l'ai rappelé tout à l'heure, mais aussi les moins connectés, sont éloignés des services publics. Mais il y a un gros problème, Loïc Barrière, c'est que pendant des années, notamment depuis, ça remonte à Sarkozy, à Jean-Pierre Raffarin, et le plan Réseau 2007, où il y a eu un coup d'accélérateur qui a été mis sur, comment vous dire, sur la dématérialisation. Et nous, à la France Insoumise et au sein de l'Union Populaire, nous ne sommes pas opposés à la dématérialisation. Nous, toutes les outils qui permettent de renforcer l'accès aux droits et de toucher le maximum de personnes, notamment parfois les jeunes qui n'ont pas nécessairement tout le temps ce réflexe d'aller à un guichet physique pour remplir des papiers, etc., c'est une excellente chose. Le problème, c'est quand la dématérialisation devient excessive et que vous avez, comme le dit le Défenseur des droits, un recours unique, en fait, à cet outil-là. Et que les maisons France Service, faut pas se leurrer, et là je renvoie à une excellente interview de notre député Daniel Obono récemment à la télé sur ces questions-là, les maisons France Service, vous savez, ces maisons qui ont été créées avec des guichets physiques pour avoir accès à des services, les services en ligne, une médiation, etc., eh bien, ces maisons France Service sont des cache-misères aujourd'hui face au fait qu'on est en train de déshabiller les services publics, on est en train de les fragiliser, de les mettre à mal. On est en train de, en les appauvrissant, on est en train de dire, regardez, ils sont défaillants, donc il faut passer sur le numérique. Donc vous accusez votre chien d'avoir la rage et vous le piquez. Et comme ça, derrière, vous supprimez des postes de fonctionnaires et vous faites des millions d'euros d'économies. Donc nous, c'est pas le service public qu'on veut. Nous, on veut un service public qui soit respectueux à la base de certaines normes. L'un des problèmes qu'on a aujourd'hui, c'est que notamment les interfaces, vous savez, numériques, les interfaces numériques sont changent sans arrêt. Elles changent d'année en année et il faut de la stabilité sur ces plateformes-là qui accueillent le service en ligne. Il faut enfin faire appliquer, comme on l'appelle de longtemps de nos voeux, la norme RG2A. C'est une norme, en fait, qui permet une mise en conformité des services publics avec toutes les normes d'inclusion. C'est faire appel à de la police qui soit inclusive, notamment pour les personnes atteintes de dyslexie, de dyspraxie. C'est de permettre aussi d'avoir des interfaces traduite en différentes langues, parce qu'on peut pas faire du français. On sait qu'un certain nombre de populations qui ont besoin de ces aides-là ne parlent pas le français de façon native. Et à un moment donné, il faut arrêter de laisser ces personnes dans la misère. Elles ont ces droits-là. On leur a donné, on le revendique en tant que France. Et il faut aujourd'hui ne pas les mettre de l'autre côté.
Alexandre Schoen, vous vous êtes intéressé à l'intelligence artificielle et aux algorithmes. Prenons Parcoursup. On ne sait pas quels algorithmes sont utilisés. Ce type de plateforme doit être modifié.
Aujourd'hui, l'algorithme de Parcoursup laisse place à une analyse des candidatures qui pose un grand problème, notamment sur la façon de prioriser certaines informations par rapport à d'autres. Aujourd'hui, on est sur des démarches où on se retrouve à avoir des situations d'anxiété pour les lycéens qui sont une violence folle, en fait, finalement. Ils sont totalement inacceptables par rapport à ce qu'on veut avoir pour eux, c'est-à-dire une orientation claire, raisonnée, qui respecte véritablement leur choix. On est sur une opacité des critères d'admission qui sont parfois qui sont à la fois inadmissibles et totalement décorrélés des réalités. Et donc, la question, c'est de voir comment est-ce que nous pouvons apporter une réponse à Parcoursup qui soit adaptée aux réels besoins des élèves. Ça demande donc de remettre l'analyse et les humains au cœur. C'est un fiasco qui s'aggrave d'année en année et qu'il faut vraiment prendre conscience aujourd'hui, c'est que, je le rappelle, il faut dénoncer fermement, dans l'espoir qu'on puisse mettre un terme le plus rapidement possible à cette logique qui est délétère et inégalitaire, où on se retrouve à avoir des stratégies plutôt que d'avoir des vœux sincères en termes d'orientation. Et notamment la bonne réputation des lycées tient lieu de critères de mérite. Il y a seulement 10% des candidats qui ont le vœu qu'ils ont finalement eux-mêmes choisi. Et ce tirage au sort 2.0 doit cesser maintenant.
Jean-Luc Mélenchon veut garantir la souveraineté numérique de la France. Actuellement, la plupart de nos données sont traitées par des entreprises privées américaines, y compris des données sensibles gouvernementales.
Aujourd'hui, vous avez dans certains ministères des contrats qui sont passés et qui posent véritablement interrogation. Quand vous avez aujourd'hui, par exemple, le ministère des Armées qui a recours des contrats de partenariat de déploiement de solutions Microsoft au sein même de son parc informatique. Quand vous avez aujourd'hui une partie des données relatives à l'éducation nationale, des données stratégiques, des données régaliennes qui doivent être tombées sous le giron de l'État, qui finalement sont confiées à des sociétés comme AWS, c'est-à-dire Amazon World Service, qu'on a encore recours à des partenariats avec Microsoft qui ont été réitérés tout au long de la décennie 2010, et que vous voyez que finalement le logiciel libre, quand les gouvernants font des discours autour du logiciel libre et qu'ils mettent en avant oui, le logiciel libre est l'avenir, etc., en fait dans la réalité c'est pas le cas et c'est un mensonge. Le logiciel libre a toujours été utilisé comme un moyen de faire pression sur les grands groupes numériques, les GAFAM, hein, Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft, simplement pour faire baisser les prix des contrats à la baisse, parce que le logiciel libre, il n'y croit pas. Alors que nous, nous y croyons à la France insoumise. Donc oui, effectivement, Jean-Luc Mélenchon et l'Union populaire, le programme L'Avenir en commun, ont un programme ambitieux sur la question de la souveraineté numérique. Et elle se fait en plusieurs points. Déjà, si vous voulez, on fait un premier constat, c'est que nous vivons aujourd'hui dans un système de capitalisme de surveillance. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on se fait de l'argent, on se fait du pognon, sur l'exploitation des données personnelles des gens comme vous et moi. Et derrière ces données personnelles, il faut vraiment que les gens soient conscients d'une chose. Ces données personnelles représentent qui vous êtes. C'est vous dans le deuxième monde, qui est le monde numérique, qui compte aujourd'hui autant que le monde réel. Et donc, en protégeant les données personnelles des gens, c'est en fait les gens qu'on protège en tant que tels. Il faut vraiment que les gens prennent conscience de ça. Et protéger ces données personnelles, ça veut dire arrêter l'exploitation mercantile des données à caractère personnel des gens. Et tous les gens, tous les partis politiques, toutes les associations, toutes les prétendues ONG qui sont des lobbyistes au service des grands groupes numériques, qui vous prétendent que vos données personnelles sont un patrimoine, sont, je cite Anne Falck Pierrotin, l'ancienne présidente de la CNIL, un actif économique à valoriser, ce n'est pas vrai, c'est faux. Vos données personnelles ne peuvent être vendues. Parce que si demain vous acceptez de vendre vos données personnelles, qui c'est qui va les vendre ces données? Ce seront toujours les personnes les plus pauvres et les plus riches, eux. Eh bien, ils n'ont pas besoin des quelques sesterces qu'on va leur donner pour leur âge, leur numéro de sécurité sociale, ou leur taille, leur poids, la couleur de leurs yeux, etc. Ou leur préférence politique. Eux, non. Les personnes pauvres, oui.
Merci Alexandre Schoen. Je rappelle que vous êtes animateur du groupe thématique numérique au sein de la France Insoumise et membre de l'Union Populaire. Bonsoir.
Bonsoir.
C'était Pluriel, une émission hebdomadaire présentée par Loïc Barrière.